Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 12h pile à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à ce journal au sommaire. Au moins 8 personnes sont mortes, plusieurs habitations inondées ainsi que des routes. Tels sont les dégâts causés par des pluies qui s'abattent depuis ce week-end dans la ville de Kinshasa. Nos reporters nous font vivre la situation dans ce journal. Vous le savez, les écoliers reprennent les cours ce lundi 8 avril après les vacances des Pâques. Cependant, en Nord Kivu, l'école primaire Sengou dans les groupements Walowa Uroba, territoire de Walikale, est occupée par les groupes armés locaux Uhuru. La société civile locale qui dénonce les faits invite les autorités à se pencher sur la question. L'invité de ce journal est Gilbert Ntoko, inspecteur de l'agriculture du territoire de Mbanzangungu. Il parle de perturbations climatiques enregistrées ces derniers temps qui sont à la base de la rareté et la hausse de certains produits des champs à Kinshasa. Bonjour à tous. Je le disais au sommaire, les pluies se sont succédées à Kinshasa depuis le week-end et cela entraîne des conséquences. Au moins 8 personnes sont mortes, plusieurs habitations sont inondées ainsi que des routes. Les érosions ont également progressé. Les points dans ces reportages de Babel Mpongo, Blaise Shindani, Murphy Fika, Alphan Poissa et Greta Lulendo, ici rendus par Babel Mpongo.
8 personnes, une mère et ses 7 enfants sont décédés pendant la pluie la nuit de samedi à dimanche au quartier Cuba. C'est la cité des anciens combattants en Galima. Un mur mitoyen a cédé sous la pression de l'eau. Ce lundi, beaucoup de Kinois sont bloqués chez eux, plusieurs sont absents des services ou arrivent en retard. Conséquence des inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Sur les cas à Massina, vers Kampemba, Mongafula, de nombreux quartiers de Ngiringiri, situés notamment vers la direction Khartoum, à Selimbaoka, entre autres du quartier Louboudi, en Galima, le long de l'avenue Mamayemo, pour ne citer que cela. À la frontière entre les communes d'Insele et Maluku, le boulevard Lumumba est menacé de coupure au niveau de Nganda Mosolo. Le bourgmestre de Maluku que nous avons joint disait être en train d'aller voir son collègue d'Insele pour examiner comment évacuer le sable qui s'y est accumulé, empêchant le passage sur cette artère. Du côté des sites érosifs, certains ont progressé vers Ngomba Kikusa et Boadi, nous dit le bourgmestre de Ngalima. Par contre, à Kogelos, Mongafula, les habitants nous apprennent que certes, malgré la forte pluie d'aujourd'hui, cela n'a pas causé des dégâts.
Merci Babel. Dans le même chapitre, ces fortes pluies exposent de plus en plus les sites de l'Université de Kinshasa aux érosions et à l'enclavement à la suite de la détérioration rapide et avancée des routes. Les averses d'hier dimanche dans la nuit et de ce matin ont rendu l'avenue Kimwenza un peu après son croisement avec Bypass quasi impraticable par les eaux de la rivière déversée à cet endroit et remplissent des cratères créés en pleine chaussée. Pendant ces temps, l'avenue de l'Université, les seuls praticable est aussi envahi par d'innombrables nids de poules en terre, les ronds-points Gaba et des espoirs au niveau du Home Vatican, rendant ainsi la circulation difficile. Michel Kifindangoy.
Outre les érosions qui menacent le site de l'Unikin des disparitions, l'accessibilité à l'Université de Kinshasa pose aussi de sérieux problèmes. Les pluies de la nuit d'hier et de ce matin ont rendu l'avenue Kimwenza impraticable au niveau du triangle des campus. 3 cratères, pour ne pas parler des trous béants, ont déjà envahi toute la chaussée de part et d'autre du pont à ce niveau. La rivière étant complètement bouchée par des bouteilles en plastique et des immondices, déverse ses eaux sur la chaussée. 3 lacs artificiels créés à cet endroit empêchent tout véhicule d'y circuler, à part les jeeps et le gros camion. Impossible même pour les piétons d'y passer sans se mouiller les pieds. Avec cette stagnation permanente des eaux, la route de Kimwenza est en train carrément de disparaître à ce niveau. La seule route menant vers l'université, l'ISTEM et les quartiers Mbanzale, Mbakogelos et Tchad reste l'avenue de l'université qui est aussi envahie par des dizaines de nids de poules. La réhabilitation de ces routes menant vers les sites de l'Unikin s'avère tout aussi urgente que la construction des canalisations d'eau pour lutter contre les érosions qui envahissent le site.
Nous venons de l'apprendre au Sud Kivu également, des dégâts énormes, dus aux pluies diluviennes et à la montée des eaux dans la presqu'île d'Ubuari, secteur de Mutambala, en territoire de Fizi. Deux personnes sont mortes, tuées dans ces eaux des pluies qui se sont abattues le week-end au village Rubanan, dans la presqu'île d'Ubuari, en territoire de Fizi. Les victimes sont une femme enceinte et une fille de 15 ans, Fiston Ngoma Mayabala.
Les victimes ont été surprises dans leur sommeil par les eaux d'une rivière en crue. Leurs corps ont été retrouvés sans vie le matin du week-end sur une embouchure de cette rivière vers le lac Tanganyika. Selon le président du comité urbain de la jeunesse de Baraka, Patient Rafiki, ces eaux en provenance des montagnes d'Ubuari ont charrié tout sur leur passage. Maisons d'habitation, des poules et chèvres et des vastes champs de culture avant de se jeter dans le lac Tanganyika. Au cours d'une réunion avec le bureau de coordination des affaires humanitaires, les acteurs de la société civile de Baraka ont dénombré 35 000 personnes, soit 7 000 ménages affectés par la montée des eaux du lac Tanganyika. Les victimes sont les populations vivant le long du lac au quartier Kalunja, Mwemezi 1, 2, 3, Aibaz, Moma, Matata et Mushimbake. Partout ici, les habitants ont abandonné leurs maisons et vivent à la belle étoile. Le président territorial de la Croix-Rouge RDC Fizi, Onésifor Kabandula, signale par ailleurs que 300 autres personnes sans abri à cause des catastrophes naturelles ont été identifiées au village Kianda sur la route vers Sebele. Lors d'une mission d'évaluation clôturée dans cette région, les services d'urbanisme, du cadastre et les chefs de ces villages ont résolu de délocaliser ces populations de Kianda vers Sebele. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
D'autre part, une dizaine de rescapés sont retrouvés après les naufrages du bateau MV Benita sur les lacs Tanganyika, confirme l'administrateur du territoire des Kalemie. Les survivants sont attendus ce lundi dans la ville des Kalemie. Ils sont accompagnés par la délégation du gouvernement provincial du Tanganyika qui s'est rendue depuis hier dans la localité de Kabimba. Pour rappel, les bateaux a coulé dans la nuit de samedi à dimanche, non loin de la localité de Kabimba, territoire des Kalemie. 25 passagers et les membres d'équipage étaient à bord d'après le manifeste. Au Nord Kivu, un calme précaire règne ce lundi sur différentes lignes des fronts dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. C'est après un week-end agité dans certaines zones. C'est notamment dans les environs de Bihambwe, territoire de Masisi, où des combats ont opposé hier dimanche les rebelles du M23 aux combattants des groupes armés locaux. Sake a également connu toute la matinée de samedi d'intenses bombardements de la part de rebelles du M23. Ces projectiles sont tombés dans les sites des déplacés de Lushagala, Chabindou et Lac Vert autour de la ville de Goma, en plus des autres tombés près des bases militaires à Sake et Mubambiro. Par ailleurs, tout est calme autour de la zone de la Rwindi, toujours occupée par les rebelles en territoire de Rutshuru. Vous le savez, la reprise des cours par les élèves après les vacances des Pâques, c'est ce lundi 8 avril. Cependant, au Nord Kivu, cette reprise n'est pas effective à l'école primaire Sengou. C'est dans les groupements Walowa ou Roba, territoire de Walikale, tout simplement à cause de l'occupation de cet établissement scolaire par les groupes armés locales ou Huru, commandés par un certain général autoproclamé Machite. Une ONG locale de défense des droits de l'enfant alerte les autorités et demande à cette milice de relocaliser son camp ailleurs afin de donner une chance aux écoliers de terminer l'année scolaire. Denise Loukesso.
Selon GAP, une ONG de défense des droits de l'enfant basée à Walikale, ce groupe a installé son camp dans l'enceinte de cette école alors que les écoliers étaient en vacances des Pâques. Ce qui inquiète et fait craindre les responsables de cette ONG concernant le bon fonctionnement des activités scolaires en cette fin de l'année. Il invite cette milice à libérer la cour afin d'accorder une chance aux écoliers de terminer l'année scolaire.
Dans les mêmes collines de l'école primaire de l'Epensengu, il y a l'église 8e Sepak, il y a le poste de santé de la 8e CEPAC. Les trois structures, ça se trouve ici. Même les parents, même les élèves, ils sont en train de s'inquiéter comment ils vont rentrer à l'école. Même les malades, ils commencent à s'inquiéter comment ils vont aller prendre les soins médicaux. Même les fidèles de l'église 8e CEPAC en Sengou, ils sont en train de se demander comment ils vont entrer à l'église. C'est pourquoi nous demandons que général Machite qu'il puisse aider la population et aider les enfants, vraiment qu'il libère la sainte. porte de l'école pour que nos enfants qui puissent étudier convenablement.
D'après toujours cette ONG, le groupe armé Uhuru est devenu particulièrement actif avec l'avènement des Wazalendo dans deux territoires de Walikale, Waloa, Uroba et Bafuna. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Et de l'autre côté, dans la ville de Beni, environ 1300 écoliers n'ont pas repris le chemin de l'école ce lundi dans les quartiers Sayo situés dans la partie sud de la ville. Décision prise par les autorités scolaires à cause de la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie de la commune de Moulekera. Quel est l'essor réservé à ces enfants qui risquent de perdre toute une année scolaire? Sadiki Aboubakar pour les détails.
Ils sont précisément 1293 écoliers répartis dans 5 écoles. Ces élèves ont également raté les examens du deuxième trimestre. Une semaine avant le début de ces examens, le chef de la sous-division de l'EPST Ville de Beni dit avoir ordonné la suspension de toutes les activités scolaires dans cette partie de la ville jusqu'au rétablissement de la sécurité. Une décision motivée par la double attaque des rebelles des ADF les 23 et 24 mars dernier, attaque ayant causé la mort d'une quinzaine de civils. Quel sort sera donc réservé à ces enfants? Mathieu Roleng, chef de la sous-division de l'EPST Ville de Beni, affirme que si la situation ne s'améliore pas, ils seront obligés d'être orientés dans d'autres écoles de la ville. Mais du côté de l'armée, on se veut plutôt rassurant. Le capitaine Anthony Mualuchai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1.
Nous avons détecté ce qui aidait l'ennemi à faire des incursions et nous sommes en train de mener des patrouilles parce que la menace a été déjà écartée. Donc aujourd'hui, je peux vous garantir que les élèves, que les enseignants du quartier Sayo peuvent, n'est-ce pas, reprendre les activités scolaires.
Entre-temps, ces élèves continuent d'enregistrer du retard dans leur programme scolaire. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Toutefois, dans la province de Maniema, les élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi après 2 semaines des vacances des Pâques. En même temps, les enseignants membres du CIECO dans les territoires des Kabambar et déclenchent un mouvement de grève sèche ce même lundi. Ils demandent leur salaire de mois de février et mars. Leur délégué syndical fait savoir que leurs revendications restent éternelles. Sefou Radjao Raphaël demande l'implication des autorités compétentes pour qu'une solution rapide soit trouvée à leurs problèmes. Sefou Radjao Raphaël, secrétaire permanent territorial et joint par Florence Kizalunga.
Les enseignants se sont réunis. À l'issue des échanges, les enseignants ont constaté eux décrié. 1. Le retard continu de paye des mois de février-mars 2024. 2. Le paiement partiel de salaire pour les enseignants du primaire. 3. L'opération élastique de services de paye par la Caritas allant de 2 à 3 semaines après le lancement de paye pour le même mois. 4. Les retenues intempestives sur salaire lors de retrait au shop Vodacom. 5. L'absence de listing définissant le barème salarial. Pour toutes les raisons ci-haut, les enseignants du territoire de Kabambar ont décidé comme suit. Primo, ils reprennent la grève dès ce lundi 8 avril 2024, comme annoncé dans leur lettre du 17 mars 2024. Eux conditionnent la reprise des cours au paiement des salaires de février-mars 2024. Secundo, ils refusent de continuer à être payés par l'IFOD Caritas et demandent au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités et ses dispositions pour choisir une meilleure banque qui peut payer les enseignants de Kabambar régulièrement et à temps opportun.
Autre nouvelle, en Ituri, des membres des différents groupes armés actifs ont quitté Bunia dimanche à destination de Kinshasa en vue de répondre à l'invitation des autorités nationales du pays. Selon des sources de sécurité, l'objectif de cette mission est de les impliquer dans la recherche d'une paix durable dans cette province, mais aussi de barrer la route à la rébellion de l'Alliance du fleuve Congo, AFC, de Corneille Nanga. Une initiative encouragée par des notables de l'Ituri en vue de mettre fin au cycle des violences depuis 2017. Dans cette province. Martial Kizabiamungu.
Au total, 17 membres du groupe armé FRPI, FPQ avec ses deux factions, IRDPC, Barkodeko, Zahir et l'autodéfense MAPI, ont quitté Bunia dimanche matin à bord d'un avion de la compagnie Tracep affrété par Kinshasa à destination de Goma. Ils ont ensuite pris un autre vol pour Kinshasa, accompagné du commandant second chargé des opérations de la 32e région militaire. Selon des sources de sécurité, parmi ces chefs miliciens, 5 dont 2 membres de la FPQ des autres de la FRPI et un de Zaïre sont arrivés dans la nuit de dimanche à Kinshasa à bord d'un avion commercial. C'est lundi matin, d'autres membres, notamment de l'IRDPC Barkodeko et de MAPI, étaient encore en attente à Gouma. D'après les mêmes sources, l'objectif de cette mission est de sensibiliser les leaders de ces groupes armés à la paix et à la défense du territoire national contre la rébellion de l'Alliance du fleuve Congo alliée au M23. Des notables de l'Ituri souhaitent que cette initiative de la hiérarchie de la RDC puisse mettre fin aux tueries de ces villes dans cette province qui regorge à ce jour environ 2 millions de déplacés internes. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un ferry des fortunes a coulé au large de la côte nord du Mozambique dimanche, tuant plus de 90 personnes, dont des enfants, ont rapporté les médias locaux. Les bateaux surchargés transportaient 130 personnes et la plupart des victimes noyées étaient des enfants, selon TV Diario Nampula, un média local en ligne. Les bateaux opéraient entre Lunga et l'île du Mozambique, dans la province de Nampula, au nord du pays, quand il a chaviré, selon les témoins. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies lundi, d'autres personnes étant toujours portées disparues.
L'invité.
Rareté et hausse de certains produits des champs comme la tomate fraîche, l'aubergine ou la ciboulette à Kinshasa, cela est lié notamment aux perturbations climatiques enregistrées ces derniers temps et au mauvais état des routes. C'est ce qu'explique notre invité, l'inspecteur de l'agriculture du territoire des Mbanzankungu au Congo central, province d'où provient l'essentiel de ces produits. Ici, dans la capitale, la caisse des tomates navigue entre 150 et 200 000 francs congolais. Elle a même atteint les pics de 280 000 la semaine dernière. Gilbert Ntoko propose également des pistes de solutions pour améliorer la production de ces denrées périssables dans cet entretien avec Babel Mpongo Massimango.
Bonjour Monsieur Toko.
Bonjour Madame.
Nous constatons une rareté de tomates fraîches au niveau de Kinshasa et une hausse de prix. Qu'est-ce qui se passe au juste?
Nous avions passé une période des inondations et une période de fortes insolations. Il y a des champs qui ont été dévastés par ces deux grands phénomènes-là, sans compter l'apparition des insectes et d'autres maladies cryptogamiques.
On peut dire que pendant cette période ici, il y a baisse de la production de tomates.
Oui. L'État n'a pas intervenu quand il y a eu des inondations. Nous avions fourni les rapports. Vous avez, par exemple, la région de Kolo, Mwala Kintende, Maundi, là où il sort la tomate. Nous avions été incapables d'intervenir pendant que toutes ces cultures étaient submergées ou emportées par les eaux d'inondation.
La baisse de la production, on peut estimer à combien?
La baisse est allée au-delà de 50%. Et certains producteurs ne produisent plus parce qu'il n'y a plus de routes. Comme c'est périssable, ils ne peuvent pas prendre les risques de cultiver la tomate en cette période de pluie. Ils doivent attendre la période sèche. Or, la saison sèche, ce n'est pas une bonne période pour quelqu'un qui fait le business parce que c'est tout le monde qui produit et le prix de la tomate baisse.
Pendant cette période-là, actuellement,
la caisse va jusqu'à 30 000 francs congolais. Et les gens sont contents, mais celui-là, quand il calcule son coût de production, il n'a rien fait.
En temps normal, ça coûte combien là-bas en cette période de pluie?
Ça coûte entre 60 et 70 000 francs congolais la caisse. Maintenant, ça se discute entre 120 et 170 000.
Mais est-ce que...
Maintenant, quand vous allez même au niveau de parking, il n'y en a pas.
Est-ce qu'il y a quand même des cultures qui ont repris après les inondations?
Il y a quand même des gens qui commencent maintenant à cultiver, mais la production, ce n'est pas aujourd'hui. Ils doivent attendre pendant 3 mois.
En dehors de la tomate, il y a d'autres produits qui sont affectés également.
Oui, on a des produits qui sont de la même famille que la tomate. Il y a l'aubergine, par exemple. Il y a les piments doux, il y a les maniocs. Vous sentez aussi la rareté des foufous parce qu'il y a des grands champs qui sont partis par la pluie. Il y a des champs qui sont restés sur place, mais parce qu'il y avait des eaux qui stagnaient dans les champs, de manioc qui étaient en maturité, ont pourri.
Il y a quelques années, on savait que les grosses tomates, on les avait pendant la saison sèche seulement. Et pendant la saison de pluie, on avait des toutes petites là. Mais depuis un certain temps, on a commencé à avoir de bonnes tomates pendant toute l'année. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce sont des semences exotiques qu'on importe, qui sont adaptés à notre climat. Aujourd'hui, on a quand même trouvé quelques variétés par rapport aux variétés passées qui ne résistaient pas pendant la période des pluies. En plus de ça, il y a des insecticides, des fongicides et tout ça.
Okay, qu'on met dans les plantes.
L'utilisation non contrôlée, là aussi, c'est un danger.
Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour améliorer un peu la production de tomates et d'autres produits des champs périssables?
Il faut d'abord un encadrement beaucoup plus rapproché de nos populations, surtout en ce qui concerne la climatologie. Les gens doivent être informés. Le calendrier agricole doit être revu et bien suivi.
Et adapté au changement climatique.
C'est ce que j'allais dire. Uh-huh. Il y a aujourd'hui des semences adaptées au changement climatique. Nous ne les avions pas tellement. Il faut aussi motiver les agronomes qui font l'encadrement ou tous les techniciens de développement qu'on appelle les TDR. Un technicien doit suivre au moins 250 à 300 ménages. En ce moment-là, ça peut être efficace, mais avec une prime. L'agronome au niveau de la province. Le plus primé, il a 28 000 francs congolais par mois. Il est ingénieur agronome à zéro. Le moins primé gagne 8 000 francs congolais.
On peut ajouter aussi la réhabilitation, la construction des routes de dessertes agricoles aussi.
Les routes de dessertes agricoles doivent être pas seulement réhabilitées, mais aussi entretenues. Et puis changer quand même les méthodes de réhabilitation des routes. Il y a un modèle de route que la JICA avait fait avec nous, qui commence par Kimpese jusqu'à vers Kinanga. Si on peut faire le modèle de route comme ça, ça va soulager tant soit peu. Il y a aussi des techniques de culture sous serre. Jusque-là, il n'y en a pas chez nous.
Merci, M. Toko.
Merci beaucoup, madame.
Gilbert Mtoko, inspecteur de l'agriculture du territoire de Mbanzangungu au Congo central, répondait aux questions de Babel Mpongo Massimango. Et c'est la fin de cette session d'actualité des midis sur Radio Kapi, mise en onde par Jean-Noël Mokondo sous la supervision et coordination de Pele Kipela Mondo et Élisée Chikota Chivueta. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de la fréquence de la paix.